There is no such thing as jazz. There's only a song. And your spirit. And your ancestors.
There is no such thing as jazz.
There's only a song.
And your spirit.
And your ancestors.
I don't know what I'd have done without Billie Holiday or Bessie Smith or Sarah, all these I follow in a tradition. Who never sounded like anybody but themselves.
Super Jazz Woman. Quand les musiciennes libres d'hier inspirent celles d'aujourd'hui.
Bonjour Chloé.
Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le podcast Super Jazz Woman pour un nouvel épisode. On est au Petit Faucheux, à Tours.
À Tours.
Voilà, sur cette scène incontournable du jazz hexagonal pour un nouvel enregistrement du podcast.
Super Jazz Woman, c'est des portraits croisés de musiciennes d'hier et d'aujourd'hui. Des femmes qui souvent ont dû développer de super pouvoirs pour affirmer leur place dans un univers essentiellement masculin.
Alors je suis en compagnie de Guillaume Hasbrouck, pianiste, compositeur, fondateur de la compagnie Frasque et initiateur de beaucoup de projets artistiques tels que l'opéra Les Sauvages ou encore Pigment and the Clarinet Choir.
Et à mes côtés, Chloé Caïton, qui est musicienne, chanteuse, qui se produit dans énormément de projets et de formations. Et Chloé, tu as participé récemment à la recréation, avec notre invité d'aujourd'hui d'ailleurs, à la recréation d'Anna-Livia Plurabel d'André Auder avec l'Orchestre National de Jazz.
Aujourd'hui, on accueille une super jazz woman. On accueille Julie Sory, batteuse de jazz. Bonjour Julie.
Salut.
Alors Julie, aujourd'hui, on va croiser ton parcours avec celui d'autres musiciennes de l'histoire du jazz. On va également parler d'un phénomène que tu connais aussi de l'intérieur. Il s'agit des All Girls Band.
Et puis, on va jouer de la musique.
Bah oui.
Sur la scène du Petit Faucheux, là, aujourd'hui, on est installé confortablement. Il y a un piano, une batterie, un micro-champ. Et on va pouvoir jouer, du coup, ensemble.
Live. Peut-être on écoute tout de suite en musique qui est Julie Sory. Voilà, vous venez d'entendre un extrait du trio, alors de l'album The Hiding Place, un morceau qui s'intitule Laissez-moi, qui a été enregistré en trio avec Felipe Cabrera à la contrebasse et Karine Bonnefoy au piano. Voilà, c'était en 2013.
C'est ça.
Alors Julie, quand t'as contacté pour participer à ce podcast, on avait une question qu'on voulait te poser et qui était est-ce qu'il y a eu dans ton parcours des musiciennes de jazz qui ont pu t'influencer, qui ont été importantes dans ton apprentissage? Et ta réponse nous a un petit peu décontenancé puisque le nom que tu nous as donné, c'est celui de Sheila E. Et Sheila E, c'est ça. Voilà, Sheila E. Ouais, c'est sûr, ça donne envie. Hein. nous, on ne s'attendait pas forcément à ça. C'est vrai qu'on avait imaginé plutôt une figure qui serait plutôt de la
pas liée à la tradition du jazz, à la batterie. Et peut-être on s'est dit que ces figures féminines-là n'étaient peut-être pas très médiatisées. Voilà, mais tu nous en diras plus.
Et oui, grande batteuse, mais qui est plus associée avec la funk, qui jouait beaucoup avec Prince notamment. Et alors, nous, du coup, on a refait l'histoire. Et en fait, on s'est dit que ton jeu, ton parcours, il nous évoquait en fait des grandes figures de cette musique-là, féminine. Et le premier nom qu'on va te soumettre, c'est celui de Marilou Williams. Alors pourquoi Marilou Williams ? Parce que quand on parle de l'histoire du jazz, eh bien c'est la grande figure pianiste, chef d'orchestre et qui a beaucoup pratiqué la musique en big band, qui est une de tes spécialités. Et puis, qui pratique le swing, qui est vraiment la musique... tu étais très attaché à cet esprit-là. Donc, écoutons Marilou Williams immédiatement. Alors Marilou Williams, cette pianiste qui a eu un parcours incroyable puisqu'elle a débuté dans les années 30, notamment avec l'orchestre d'Andy Kirk, où elle était la principale soliste. Et puis ensuite, elle a joué avec énormément de personnes. Elle a été une grande égérie et inspiratrice aussi du mouvement bebop, puisqu'elle était très proche de Thelonious Monk, de Charlie Parker. Et son appartement en fait, à New York était un peu un centre névralgique de cette nouvelle scène. Et puis ensuite, au cours de son parcours, elle a écrit des pièces, des suites, comme a pu le faire vraiment à l'égal d'Ellington, de Duke Ellington. Et notamment une Zodiac Suite qui est magnifique, donc qui évoque tous les signes du Zodiac et aussi des grands musiciens avec laquelle elle a joué. Donc on avait envie de te faire réagir à ce nom-là, mais pas seulement.
Oui, alors juste me permets d'ajouter que la musique que vous avez entendue, là, l'extrait, c'est en fait, on n'entend pas Marilou Williams jouer dessus, parce que c'est une compo pour un big band qui s'appelle Mary's Idea.
C'est une compo originale de Marilou Williams.
Y a un autre volet qui nous intéressait dans ton parcours et dans son parcours aussi, et c'est quelque chose, on a envie de t'entendre parler de ça aussi, c'est l'apprentissage de cette musique à travers le métier de sidewoman. Alors, qu'est-ce qu'une sidewoman, du coup ?
Sidewoman, on va dire que c'est des musiciens qui pratiquent, qui se mettent au service de plein de projets, qui ne sont pas toujours en position de leader, en fait, mais qu'on appelle pour leurs grandes compétences, pour leur savoir-faire, pour leur capacité aussi à se glisser dans plein de contextes différents. Et donc, voilà, donc c'est toute une pratique en fait, de ce métier extrêmement importante et que tu incarnes incroyablement.
Et les sidewomen et les sidemen, ils font l'identité des groupes et des orchestres autant que leurs leaders.
Évidemment.
Puisqu'il y en a qui sont très très présents sur beaucoup d'enregistrements. Et je pense que c'est ton cas.
Et enfin, le dernier volet qu'on voudrait évoquer avec toi, c'est ce phénomène des all-girl bands. Tu as joué dans un groupe qui s'appelait Room Banana. Tu joues actuellement avec Rhoda Scott dans le Ladies Quartet, avec uniquement des femmes. Et donc, on reviendra amplement sur ce sujet, notamment dans le cadre d'une chronique.
On peut d'ores et déjà écouter un extrait musical de Rhoda Scott, justement, de Lady All Star. Voilà, ça c'était un extrait d'un live au Festival Jazz à la Villette et on t'entend en duo avec Anne Passeo, ta collègue batteuse, voilà. Et puis, il y a une magnifique section de soufflants. Et d'ailleurs, il me semble que dans ce concert, il y a un homme dans l'orchestre. Et je crois que c'est Julien Allourd qui doit remplacer R.L. Besson.
Oui, c'est ça.
Et ça m'a intriguée, parce que je me suis dit, tiens, là, il est tout seul.
Comme dit Roda, on n'est pas sextaire.
Ah, pas mal.
Alors, comme tu l'as entendu, on s'est permis des associations pour évoquer ton parcours. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Est-ce que donc chez l'AI, donc voilà, qui est cette figure qui a été importante pour ton apprentissage de la batterie, est-ce que ça a été la seule figure féminine dans laquelle tu t'es projetée?
À l'époque, oui. Elle a été très importante pour moi. Parce que je faisais un rejet total de ce jazz traditionnel swing. Fallait que j'aie ma petite identité quand même à cette époque de l'adolescence. Et donc, j'ai commencé à écouter la musique de mon époque. Et c'est vrai que Prince a été très important dans mon éducation musicale. Et aussi parce qu'il y avait des femmes dans son orchestre. Et je n'avais pas de figure, j'avais pas de représentation de ça dans mon milieu proche. Et pour moi, le jazz, ça restait la musique de mon père. Donc, je m'y intéressais, mais pas tant que ça, parce que c'était comme acquis pour moi, parce que j'ai grandi dans cette musique. Donc, c'était acquis, donc ça m'intéressait pas.
Maxime Sory, donc ton père, clarinettiste.
Voilà, j'ai écouté la musique de mon époque et je suis allée à un concert. Et puis là, j'ai vu Chilaï. C'est le déclic qui a permis d'assumer le choix de cet instrument. Parce qu'avant, je faisais du piano. Et c'est vrai que la batterie m'a toujours interpellée. Et puis, ah ouais, c'est possible. En fait, c'est pas la honte, ça sera pas déplacé, ça sera pas, on va pas se foutre de moi. Enfin, plein de questionnements qui étaient liés au choix même de l'instrument. J'ai sorti de ce concert de Sign of the Time conquis et décidé.
Moi, j'aimerais bien que tu nous parles peut-être d'une de tes expériences en tant que batteuse, en trio. Tu m'avais raconté une fois le début du trio avec Philippe Milanta et Bruno Rousselet. Et ça c'était un peu ton entrée en matière ou ton entrée dans le bain du métier, justement, de sidewoman, quoi.
C'est vrai que j'ai appris le métier, alors old school dans le sens où j'ai commencé par faire les jams avec mon père au caveau de la Huchette, tout ça, que lui, il avait appris de façon orale. Donc voilà, on devait s'adapter à la seconde près. Qu'est-ce qu'on va jouer? Je sais pas, ouvre tes oreilles, c'est quoi? Je te donne le tempo, après tu verras bien ce qui se passe, quoi. Donc c'était ça, mais en même temps, j'ai eu une éducation, je suis allée dans des écoles. Et donc, en fait, très vite, j'ai intégré les orchestres de swing et de jazz strat parce qu'en fait, pour eux, je connaissais déjà le répertoire. Donc, c'était pratique pour eux d'avoir quelqu'un, un jeune, il fallait, ces mecs-là, ils ne voulaient pas répéter. Donc, il fallait connaître le répertoire. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après... C'est vrai que le monde du jazz, si je vais pas refaire pareil, pas jouer du Sidney Bechet, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Et puis aussi, avec mon père, c'était un peu tendu parce qu'il voulait m'apprendre. Et puis moi, je voulais pas. C'est comme ça, mais non, je te crois pas. Enfin bon, je vais aller apprendre ailleurs parce que ça suffit. On va pas y arriver. Et puis il fallait que je fasse mon propre apprentissage. Et puis il n'y avait pas que cette musique qui m'intéressait. Et j'ai été alpaguée par la musique latine, complètement par hasard. Ça m'a permis, ça a été ma porte de sortie pendant des années, d'apprendre déjà autre chose, un autre style, connaître d'autres personnes, me faire un autre réseau. Et c'est curieux, c'est Philippe Milanta, en fait, que je connaissais depuis que j'étais très jeune, qui cherchait un batteur pour son nouveau trio. Et je me suis retrouvée là... C'est lui qui m'a fait revenir dans le milieu du jazz. Et justement, ce qui l'intéressait, je pense que c'est que je connaissais la tradition, mais lui voulait jouer moderne. Et là, j'ai fait « Ah ouais, là, ça m'intéresse ».
si on fait le lien avec la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est aussi, trouver sa place dans ce milieu qui parfois peut être un peu hostile, trouver sa place dans le trio en tant que musicienne, plus jeune, une femme. Bon, je sais pas. Est-ce que
hostile, c'est incarne bien. c'est dur parce que le rôle, de s'imposer, de s'affirmer en tant que femme, ça c'est clair, et aussi la double peine, je dis ça avec tendresse, mais d'être la fille d'eux aussi. Ouais. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais un côté légitime, mais pas tout à fait quand même, où on m'attendait au tournant. Déjà, ça a été de gommer tout signe de féminité en général, d'être le plus neutre possible, esthétiquement parlant, pour être prise au sérieux. Et puis, mon avantage, c'était que je ne connaissais que ce milieu, donc les codes, je les avais de sociabilisation, on va dire. Donc, c'était pas mal, mais ça a été dur. Oui, dans ce trio, ça a été dur de trouver sa place. Puis en plus, c'est dur le trio, le format trio. Déjà, c'est dur parce que de trouver un équilibre entre chaque musicien et puis, d'être côté légitime, pourquoi je suis là, et puis toujours ambivalent,
sensation de devoir peut-être faire ses preuves.
Il y a ça, et puis il y a toujours le côté un peu séduction qui va venir, et qui est tout le temps là, mais sans être là, et c'est ce qui m'a fatiguée le plus.
Sur ces fameuses capacités d'adaptation un peu hors normes, je vous soumets juste cette petite citation de June Rottenberg, qui est une bassiste, qui disait « To be treated as equal, you'd better be very good ». Traduction, pour être traité comme égal, finalement, il faut être très, très bonne, meilleure presque.
Non, mais c'est ça, ça je l'ai toujours entendu. Et le premier qui me l'a dit, c'était mon père. Donc lui, il m'a mis la pression directe. Elle a dit, en plus, t'es une femme, sous-entendu par sa génération, on les considère moyens, et en plus, t'as choisi la batterie, t'es pas dans la merde.
Et puis, pour revenir au début, en fait, l'absence aussi de figures dans lesquelles se projeter. Et alors, du coup, je voulais te poser la question, est-ce qu'à un moment, t'as commencé à découvrir des musiciennes dans le jazz, dans l'histoire du jazz ? À quel moment ça s'est révélé, ça ?
Très tardivement. Ouais. C'est quand j'y suis revenue, en fait. Et là, j'ai commencé à découvrir plusieurs figures. La première, ça a été Terrelyn Carrington, parce qu'évidemment... Ça m'intéressait de savoir, par rapport à la batterie, ce qui s'était passé. Les femmes, les pianistes, évidemment, de l'époque, il y avait Jerry Allen, il y avait Mary Lou Williams, forcément. Mais c'est curieux, parce que même dans mon apprentissage dans les écoles, la femme de Coltrane, mais on en parlait, c'était presque anecdotique.
Ah ouais, complètement.
C'était pas genre, aujourd'hui, on va parler de Mary Lou Williams. Non, ça n'arrive pas. Alors, je parle en France. Aux États-Unis, c'est différent. C'est quand même différent. Oui, il y a eu Carla Bley, mais c'était plus musique actuelle, mais pas de tradition. Ou alors, elles étaient traitées comme un peu des phénomènes de foire, genre l'enfant prodige. Ça me rappelle Hazel Scott, qui finalement s'est retrouvée à faire que du piano démonstratif. Show. Mmh. Et elle a pratiquement joué avec personne, pas grand chose.
Et bien justement, en fait, à ce propos-là, en fait, cette difficulté sont rencontrées les femmes dans l'histoire du jazz pour faire leur place, et bien ça a développé un phénomène, celui des all-girl bands. Alors on a l'impression des fois que c'est assez récent en fait comme phénomène, mais pas du tout, puisqu'on en trouve aux États-Unis dès la fin du 19e siècle, notamment un ladies orchestra, déjà, en 1884, dans le Massachusetts. Et puis, dans les années 20, on trouve, par exemple, The Parisian Redheads, qui viennent d'Indiana, comme leur nom ne l'indique pas, ou The Ingenues, ou The 12 Vampires.
Alors, ces ensembles uniquement féminins, en fait, c'est une réponse à la difficulté rencontrée par les femmes pour accéder à des places dans les orchestres établis, c'est-à-dire les orchestres masculins.
Et le fait de monter ces orchestres exclusivement féminins, ça va pas forcément être facile parce que ils vont souvent être dévalués, dépréciés et être considérés, comme tu parlais tout à l'heure de Hazel Scott qui a eu une carrière un petit peu difficile sur la fin, ben ça va être considéré comme des orchestres de divertissement, c'est pas vraiment de la musique sérieuse quoi.
Alors justement, c'est le cas de la clarinettiste Anne Dupont qui témoigne. Elle, au bout d'un moment, elle en a eu marre de faire partie d'orchestres féminins et elle fondera un orchestre exclusivement masculin dont elle sera la seule présence féminine qui rencontrera un certain succès pendant une petite dizaine d'années.
Dans les grandes années, en fait, on va dire les années 30-40, il y a un orchestre qui est très emblématique de ce phénomène, c'est The International Sweethearts of Rhythm, donc un orchestre qui a été créé au sein d'une école dans le Mississippi et qui réunissait des musiciennes de différentes nationalités, mexicaines, chinoises. On les écoute.
And now, ladies and gentlemen, a real jive tune, Jump Children.
Alors, The International Sweethearts of Rhythm, c'est un orchestre qui était vraiment connu et qui faisait souvent des doubles plateaux avec celui d'Ellington ou celui de Count Basie. Voilà, des espèces de contests comme ça d'orchestre. En fait, donc, ces musiciennes qui jouaient dans cet orchestre, finalement, elles se battaient sur un triple front, parce que évidemment il y avait la dimension raciale, hein, parce que donc la plupart étaient de couleur, et donc c'était un premier combat. Le deuxième combat, évidemment, c'était le combat de s'affirmer comme musicienne dans ce milieu-là. Et puis le troisième, c'était il y avait aussi des femmes homosexuelles dans cet orchestre-là. Donc on imagine les difficultés qu'elles ont rencontrées pour mener leur carrière.
Je sais que ça, il t'avait plu cet extrait, je me souviens, on en avait discuté.
Oui, non, mais c'est surtout que j'ai découvert ça super tardivement, quoi. Donc c'est vrai que c'était à période de guerre aussi. Il y avait aussi que les gars, il y en a qui n'étaient plus là pour jouer, et donc elles ont fait des orchestres. Mais ouais, c'est vrai que ça jouait carrément terrible, quoi. Et après, on n'en a plus entendu parler.
Pas beaucoup.
C'est très peu médiatisé. Ouais. Quoi. C'est...
Ouais. Et toi, tu as donc fait partie d'un groupe, d'un orchestre exclusivement féminin pas mal d'années. Est-ce que tu peux un peu raconter tes...
Je veux dire, j'ai cautionné ce truc-là, mais d'une force. Alors, sans regret du tout, hein, mais j'ai pas joué qu'avec des filles. Mais c'est vrai que déjà, j'ai fait cet orchestre Room Banana pendant au moins 10 ans. On n'était que des femmes. Et là, c'était assumé. On cautionnait le truc avec un grand C. Ça a été une super expérience. Déjà, j'ai rencontré de super femmes musiciennes que j'aurais peut-être jamais rencontrées ailleurs. Et puis après... Il y a eu la rencontre avec Rhoda Scott. Bon, ça, c'est évidemment, en premier lieu, ça a été fait pour être un orchestre de femmes. Hein. Pour l'anecdote, c'est que Abbé Lincoln a annulé au dernier moment parce qu'elle était souffrante à Vienne. Et donc, Jean-Pierre Vignola, à l'époque, Room Banana jouait à Vienne et Rhoda... je ne sais plus si elle était programmée ou en duo, je ne sais pas. Dit bon, bah, on va vite monter un orchestre. Et comme c'était la soirée des femmes, il y a toujours, à l'époque, il y avait la journée pour les femmes. Alors déjà, bon, ça se discute. C'était que des leaders femmes qui venaient présenter leur orchestre. Et donc, il a pris Roda, moi, il y avait R.L. Besson et Sophie Allour. Mmh. Et c'était en 2004. Mmh. Et là, pour le coup, bon, évidemment, on a accepté déjà, parce que c'était Roda, c'était quelqu'un qu'on avait énormément envie de connaître. Et puis voilà, 2004, et on ne s'est plus jamais quitté. Mais là, c'est différent parce que on a choisi de rester ensemble parce que humainement, c'est beaucoup plus, musicalement, et que c'est une aventure incroyable. Et là, il se trouve qu'on est des femmes, mais ce n'est pas ça qui nous lie, en fait. Vraiment. Enfin, ce n'était pas à but commercial. Enfin, on n'est pas resté là-dessus. Et même le choix des musiciennes qui nous entoure actuellement, que ça soit avec le All Star, ça a une histoire avec Roda, autour de Roda. Et tu parlais de Julien Allour, voilà, pas. Les hommes sont acceptés. Julien, non, mais Julien a remplacé souvent. Et puis, non, c'est une super aventure d'amitié, de musique. On s'est choisi, en fait. Finalement, au départ, ça a été un peu provoqué, mais on a choisi de rester ensemble. Mais cautionner, c'est vrai que c'est toujours... Je connais des amies musiciennes qui, elles, refusent, même si le projet est hyper intéressant, par principe, m'ont refusé de faire partir d'un orchestre féminin.
Et pourtant, on ne se pose pas la question quand c'est des orchestres exclusivement masculins.
Ouais, mais elles veulent pas cautionner le truc parce qu'elles veulent que ça fait pas avancer le schmilblick, c'est pas bien. Enfin, bon, pour de multiples raisons. Mais moi, c'est vrai que maintenant, avec mon expérience, maintenant je choisis les musiciens avec qui j'ai envie de jouer, comme Aurélie Tropé, par exemple, dans mon disque, et Shannon Bardet. Je me suis même pas posé la question de me dire c'est des filles ou c'est pas des filles. Pour moi, c'était des gens avec qui j'avais envie de jouer, point barre. Et on aimerait en arriver là, en fait, dans l'absolu.
En tout cas, c'est une question qui divise.
Pourquoi elle divise ?
Elle divise parce que toutes les femmes n'ont pas le même positionnement par rapport à ça.
Ah
justement.
Oui, d'accord. Ouais. Bah, c'est vrai que ouais, moi j'essaye d'avoir un recul aussi là-dessus, et puis on a décidé, nous, à une certaine époque, surtout l'époque Room Banana où Sophie, R.L., tout ça, on a un peu essuyé les plâtres parce qu'on était les premières femmes musiciennes un peu dans ce milieu-là. Moi, par exemple, j'avais envie de jouer, donc ouais, j'ai cautionné le truc parce que j'ai dit s'il faut passer par là pour jouer, je vais le faire, quoi. Et puis j'ai pas la honte non plus. Mais je pense que la nouvelle génération va être beaucoup plus détendue avec ça, parce que déjà, il y a de plus en plus de femmes musiciennes.
Oui, c'est ça. Il y en a de plus en plus, ouais. Peut-être aussi dans les lieux d'enseignement de cette musique.
Il y a ça.
Et ça passe par là aussi.
Exactement.
Par l'éducation, l'enseignement musical.
À mon époque, les départements de jazz, il n'y en avait pas encore partout. Là, maintenant, ils grandissent ensemble. Mm.
Oui. Et il y a peut-être une répartition un peu moins genrée
des
instruments.
Donc ouais. Actuels jeunes musiciens, musiciennes de jazz, ils sont vachement plus relaxés avec ça.
Ouais.
Ils se posent beaucoup moins de questions.
Ça vous dirait pas de jouer un petit peu ?
Allez, allons-y. Merci beaucoup, Julie.
Avec plaisir.
On va partager un moment musical ensemble, tous les trois. Avec cette petite composition, une rumba rebop de Marie-Lou Williams. Voilà, si vous êtes d'accord.
Allez,
on se lance ensemble. C'est parti. Thank you. Très vite pour un nouvel épisode de Super Jazz Woman. À bientôt.
Super Jazz Woman, un podcast réalisé par Chloé Caïton, Guillaume Hasbrook et Lucie Baverel. Enregistrement et mixage Mathieu Plouchard. Production Le Petit Faucheux, à l'initiative de Françoise Dupas. Un projet possible grâce au soutien de la DRAC Centre-Val-de-Loire et du Centre National de la Musique.